icône pour un acteur, c'est la personnalité. Ta présence.
Je vous répondrais non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok?
Ça peut couler, hein.
On en parle.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Le courage politique, dit-il, c'est au niveau local que l'on peut encore y croire. Deux villes françaises radiographiées dans deux films et ce thème commun, la puissance de la parole pour convaincre. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Mais bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
La maire d'une ville de Seine-Saint-Denis s'acharne avec son équipe à sauver une cité minée par l'insalubrité. Bonjour Thomas Kruithof.
Bonjour.
Elle, c'est Isabelle Huppert et lui, son directeur de cabinet Reda Kateb. Dans Les Promesses, votre film, celle que les personnages échangent pour convaincre la population et les promesses qu'ils se font à eux-mêmes, l'intime et le politique, c'est tout l'enjeu de ce film. Un comédien projeté candidat dans une élection municipale réelle dans les Ardennes. Bonjour Laurent Papeau.
Bonjour.
C'est vous, cet homme, cet élément de fiction dans une vraie campagne. Le film s'appelle Municipal, réalisé par Thomas Polo. Une idée folle pour libérer une autre parole et proposer une vraie participation citoyenne. Les Promesses et Municipales sortent tous les deux mercredis prochains. Tandis que cette semaine, beaucoup de candidats dans les salles, de Claude Lelouch à Guillermo del Toro. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Manek sent le cœur de Mathilde battre dans sa paume. Et chaque pulsation la rapproche de lui.
J'entends son cœur qui passe comme du morse. On va se marier. Une chance qui nous est condamnée, sinon on aurait dû attendre la fin de la guerre. Là, du coup, je vais pouvoir rentrer à la maison tout de suite après l'exécution.
Ah, voilà John Crawford. Habillé de manière terriblement ennuyeuse. Excusez-moi, mademoiselle, ce n'est pas vous, vous êtes ravissante. Mais je n'en peux plus de me voir. Est-ce que tout ceci n'est pas dérisoire?
Non.
Tu sais, des fois, je ferme les yeux. Je vois des vêtements qui volent, qui flottent. Juste des formes, des couleurs en mouvement dans l'air. Puis je les ouvre, je ne vois que des choses lourdes et sombres.
Une gueule d'ange, gentil, élégant et qui n'avait jamais conscience de son immense beauté, dit de lui Anaïs de Moustier à propos de Gaspard Ulliel, mort cette semaine à 37 ans. Un choc immense pour l'ensemble de la profession. Tous saluent, comme Bertrand Bonello, et en plus de son talent, sa douceur, sa générosité. Personne, dit-il, ne peut avoir un bémol sur ce garçon. 37 ans, Laurent est un parcours avec un sacré panel d'auteurs. Téchiné, Genette, Tavernier, Bonello, Dolan, Scholler, Jacques Oniclou et toujours cette voix grave et cette retenue.
Oui, en effet, c'est le grand découvreur de talent André Téchiné qui avait distingué celui très singulier de Gaspard Ulliel en lui confiant le premier rôle masculin de son film Les Égarés aux côtés d'Emmanuel Béard. Alors suivront une vingtaine de films, on le retrouvera ainsi chez le Jean-Pierre Jeunet, en effet de Un long dimanche de fiançailles, qui lui vaudra un César. Et sa carrière se déroule sous le signe alors d'un éclectisme assumé qui lui permet de figurer en tête d'affiche de la fresque que Pierre Scheler consacra à la Révolution française avec Un peuple et son roi. Mais deux films se détachent plus nettement encore dans cette filmographie si prometteuse mais stoppée net et qui sont comme des diamants noirs portés par cet acteur au beau milieu de casting talentueux. Ce seront Juste à la fin du monde de Xavier Dolan et Le Saint-Laurent de Bertrand Bonello. Dans les deux cas, Gaspard Ulliel a su construire un personnage complexe sur la base de très beaux scénarios. Dans les deux cas, sa belle gueule d'amour fait des ravages en affichant une séduction brute, presque brutale, que contrebalance sans cesse une finesse vertigineuse. Dans les deux cas, son incarnation traverse tout le film à une vitesse folle et incandescente. Autant de promesses de tant d'autres beaux rôles forcément à venir et peaufinés par des scénaristes qui auraient donné à Gaspard Ulliel l'occasion d'aller plus loin encore dans la recherche du jeu parfait. L'émotion suscitée par son décès révèle d'abord et avant tout le sentiment cinéphile de rêves sur grand écran qui n'auront pas lieu. On pense évidemment au sien.
C'était Gaspard Ulliel.
Je trouve que tu perds ton temps ici.
Même si tu veux être le député du coin, tu sais bien que c'est surtout pas ici qu'il faut agir. Sans ça, tu ne te démènerais pas autant à Paris. Avoue.
Oui, c'est vrai.
Paris qui compte.
Oui, c'est vrai. Plus que je ne voudrais, d'ailleurs. Mais il est malheureusement indispensable que je me place en même temps à l'échelon national. Bon, et pour que je me place au national, il faut d'abord que je me place sur un plan local. Voilà. C'est ce que j'ai fait.
Eh bien, si c'est fait, reste ici le moins de temps possible. Et intrigue surtout à Paris.
Je déteste l'intrigue. J'aime mieux passer mon temps à séduire mes électeurs plutôt que les éléphants du parti.
Bah, oui, mais si le parti ne veut plus de toi.
Mais il voudra de moi si je suis fort, et ma force, elle vient d'ici. Si je fais de la politique, c'est pas pour faire comme tout le monde. La politique politicienne, maintenant, c'est terminé. Mais c'est vrai, les gens en ont marre des magouilleurs et des beaux parleurs.
L'arbre, le maire et la médiathèque. Éric Rohmer, 1993. Rien n'a vraiment changé depuis, et notamment dans les rapports de la politique au niveau national et local. C'est au local que vous situez votre film, Thomas Kruithof, Les Promesses, celle qu'une femme, la maire d'une ville, le Seine-Saint-Denis, fait à ses habitants pour sauver une cité délabrée. La politique au niveau local, est-ce que c'est là qu'on peut encore y croire ?
En tout cas, c'est un peu ce qu'on s'est dit avec Jean-Baptiste Delafont, le camarade avec qui j'ai écrit ce scénario et conçu cette histoire. Aussi probablement parce que il y avait une place particulière du maire dans l'échiquier politique une position un peu, je dirais, en première ligne, sans filtre vis-à-vis de ses habitants, et même dans une ville comme celle dont Isabelle Huppert est le maire dans le film, qui est peut-être une ville de 50, 100 000 habitants. On voit les habitants tous les jours et même le week-end, on les reçoit dans des permanences. On est traversé de petits, de courts, de longs, de cette émotion qui parfois est de la confiance, parfois est de l'amour. Le maire a encore du crédit aux yeux des Français.
C'est le seul élu qui est aimé par les citoyens.
Qui est aimé. Ouais. Et en même temps, il y a aussi parfois, naturellement, dans l'intensité des problèmes, une grande agressivité, une hostilité. Et puis il y a aussi cette place, elle est centrale parce que d'un côté, il y a ce qu'on appelle entre guillemets les administrés, et de l'autre côté, il y a l'État central parisien, notamment pour une maire de banlieue qui, dans le film, à une ville trop pauvre pour résoudre elle-même seule au niveau local ses propres problèmes.
Justement, malheureusement, donc un grand projet au niveau local doit se cogner au pouvoir national. Clémence, donc Isabelle Huppert et son équipe, menée par Yazid Sereda Kateb, essaient de faire passer ce projet.
Combien vous demandez déjà pour votre plan de sauvetage ?
63 millions.
Avec un plan de rénovation sur 31 mois. L'État rachète 68% des logements pour les transformer en HLM et y maintenir les ménages les plus pauvres des Bernardins. Et on garde 32% de propriétaires, solvables et responsables.
Responsables.
Responsables, mais désespérés, oui.
Plus ça se dégrade, plus on les fait payer. Encore ce matin, il y avait une fuite qui a ravagé 5 appartements. Ils ont besoin qu'on leur tende la main.
Enfin, une main à 63 millions d'euros, Clémence, dont en fait eux-mêmes ne veulent pas. Si l'État rénove l'ensemble, mais qu'au final les habitants ne paient pas leurs charges, les bâtiments vont encore se dégrader. Et dans 15 ans, on va se retrouver au même point qu'aujourd'hui. Enfin, avec entre-temps 63 millions d'argent public partis en fumée. Non, moi je suis désolé, les amis. Hein. Mais on a jour.
Pardon ? Je vous préviens, Jérôme. Si vous voulez m'empêcher de présenter mon plan, il va falloir envoyer à la police.
Je vous bascule dans la commission de juin.
En juin, il n'y aura plus d'argent dans les caisses. Et moi, je serai plus maire.
Vous ne représentez pas ?
J'arrête. C'est Nedra qui va prendre la suite. Et je ne veux pas partir comme une voleuse. Donc je veux régler les Bernardins avant, c'est-à-dire maintenant.
Bon, écoutez, j'ai lu votre dossier hier, et il est bon. Enfin, il était bon, hein, parce que moi, entre-temps, j'ai reçu cette délicate missive.
Vous n'allez quand même pas planter un plan à 63 millions pour même pas 100 000 euros de charges ?
Non, mais il y a d'autres cités, hein, il n'y a pas que les Bernardins. Ça s'appelle un arbitrage. Et malheureusement pour vous, le principe d'un arbitrage, c'est que ça fonctionne par élimination.
Thomas Kruithof, Les Promesses, c'est un film sur la politique, mais on parle plus d'argent que d'idées.
Tout à fait. Les promesses, souvent, ça peut être un poste, ça peut être une alliance, mais là, en l'occurrence, c'est une subvention, c'est de l'argent, et on est un peu dans le concret, dans la réalité du terrain. Et c'est vrai que les personnages sont soumis à des problèmes, je dirais, immédiats à résoudre, et parfois des problèmes longs, comme le logement, qui est vraiment un sujet fondamental, de la vie politique et de la politique locale, parce que c'est un sujet viscéral.
Cité délabrée, complètement menée par les marchands de sommeil, des fuites de partout, enfin un drame, quoi.
Oui, voilà.
Un drame pour les centaines d'habitants.
Un drame pour les centaines d'habitants qui vivent ça depuis plusieurs dizaines d'années quand on est dans le film, et qui est aussi inspiré de beaucoup de situations qu'on a en banlieue parisienne, mais aussi dans d'autres villes de France.
C'est très très crédible, je crois. On vient de l'entendre. Ouais. Et alors, justement, comment est-ce qu'on travaille la vraisemblance ?
On travaille à la vraisemblance. En fait, la source du film aussi, c'est un intérêt pour la politique locale, se dire que c'est un endroit méconnu, et aussi la position particulière du maire de banlieue et de ses combats. Et probablement notre première idée, c'était aussi de se dire, on fera un film contrairement à beaucoup de séries politiques, ne parlera pas de conquête du pouvoir, mais de son exercice, du sens un peu de base de la politique, c'est comment améliorer la vie des gens que je suis censé représenter en tant qu'élu ou en tant que directeur de cabinet.
Voir comment quitter le pouvoir aussi. Enfin, parce qu'elle se pose la question, et la question se pose comme ça.
Et la question se pose aussi, comment partir, comment arrêter la politique et comment transmettre le flambeau. Et donc voilà, c'est vrai qu'on est allé voir avec Jean-Baptiste Delafont des maires de banlieue. Et c'est là aussi qu'est venue l'inspiration de ce problème d'insalubrité, de dégradation, notamment avec Olivier Klein, le maire de Clichy-sous-Bois, et la cité du Chêne Pointu, on a tourné. Mais voilà, on a rencontré des maires de différents bords politiques qui, généralement, nous ont vraiment accueillis, qu'on a suivis, qu'on a questionnés, on a essayé de comprendre un petit peu les choses, et puis voilà, on a emmagasiné beaucoup de choses qu'on a essayé de faire rentrer dans un film.
Et comme c'est du cinéma, vous avez créé et dessiné, écrit deux beaux personnages avec deux très grands acteurs, Isabelle Huppert et Reda Kateb. Elle, Clémence, ex-médecin, ascendance bourgeoise, et à la fin d'une carrière de mère, donc lui, Yazid, élevé dans les quartiers, intelligent, ambitieux, et à l'aube d'une grande carrière.
Ah mais pour Yazid, c'est pas qu'une histoire de béton, tout ça. C'est toute son enfance.
T'as grandi en cité ?
Ouais, ça va. J'étais pas malheureux, je manquais de rien.
On fait toujours de la politique avec ce qu'on est.
Mais du coup, la politique, ça s'est fait comment ?
Obama. Le soir de sa première élection, Yazid avait voulu qu'on diffuse CNN à la mairie toute la nuit. Il faisait lui-même la traduction en direct.
Ah, tu parles bien anglais?
En tout cas, il parle Barack Obama couramment. Yazid, tu veux pas nous faire un petit bout de discours?
Ça va.
Le dîner des correspondants avec Trump.
Tout le monde l'a déjà vu.
Ah bah non, pas moi.
J'ai l'air de quoi, moi, maintenant? Ça y est, parce que je suis issu des minorités, alors je devrais avoir un poster d'Obama au-dessus de mon lit, c'est ça?
Les promesses de Macruitoff, Laurent Papeau, vous avez vu le film?
Oui, hier soir.
Alors?
Bravo. Ah ben, c'est un très beau film, et puis je l'ai regardé aussi dans l'idée de ce matin,
oui.
Donc j'essayais aussi de faire des liens avec, et ça se répond tout à fait, notamment sur la parole, sur ce qu'on peut dire, sur à quel point la parole n'a plus de valeur, comment tu disais tout à l'heure,
ne crée plus accord, ne crée plus consensus, enfin ne performe plus quoi.
Ne performe plus. C'est-à-dire que c'est un très beau film, très bien scénarisé, avec des nœuds. En fait, il tisse, il fait un espèce d'énorme nœud, et puis finalement, il arrive au bout à avoir un fil, mais le nœud reste complètement entier. Donc c'est très 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 bien. Allez le voir après municipal.
À un moment, donc elle dit, Isabelle Huppert, elle lui dit, on fait tous de la politique avec ce qu'on est. C'est une belle phrase, mais encore.
Bah non, on fait. C'est marrant parce que vous me posez la question, je me suis pas demandé si j'étais d'accord, mais je crois que non, parce que parfois on essaie de trouver dans des dialogues des phrases qui peuvent sortir, et puis c'est de la politique. On est toujours.
On fait ça par rapport à son extraction,
par rapport à là d'où on vient. Et puis je pense aussi que c'est un film sur sa propre ligne de conduite, comme vous disiez tout à l'heure, un peu les promesses qu'on s'est fait à soi-même.
Ouais.
Voilà qui on a décidé, qui on a rêvé d'être, comment on a décidé de se comporter en tant que homme ou femme politique. Et évidemment, c'est quelque chose qui est toujours un petit peu réactualisé par rapport aux événements, par rapport à tout ce qu'on peut se prendre dans la gueule et quand on est maire, à l'intensité de cette vie et aux choix qu'on est amené à faire. Et voilà, et on voit que cette ligne de conduite, elle va être fragilisée, en tout cas pour les deux personnages, tout au long du film.
Le film fait sans cesse, c'est ça qui est une grande qualité, le va-et-vient entre deux, en laissant une large part de l'image donc à la population de cette ville, leur colère, leur impatience, leur perte de confiance surtout. Il y a un double enjeu pour la maire et son cabinet et l'ensemble de son personnel, c'est de convaincre l'État de réhabiliter et convaincre la population qu'on va y arriver. Et c'est là où on est au cœur du propos, dans celui de la promesse, des promesses et de leur définition.
T'es honnête,
Tu promets pas de gagner, tu promets juste de te battre.
Ah, et Chirol, ils ont déjà tenté le coup il y a plus de 20 ans, ça a fini au Conseil d'État, et au final, les copros se sont mangés une méchante tôle.
On n'est pas obligé de leur faire un cours d'histoire du droit.
Donc, je suis honnête, mais je mens.
Mais pas du tout. On lance réellement la procédure.
Qu'on s'est perdu d'avance.
Une promesse non tenue, c'est pas un mensonge.
Ah bah, si on sait dès le départ qu'elle pourra pas être tenue, si.
Mais est-ce qu'on sait dès le départ qu'elle pourra pas être tenue?
Bah, bien sûr que oui, qu'on le sait, parce que sinon on aurait lancé la procédure depuis longtemps.
Non, l'étude ne dit pas que c'est ingagnable.
Bah, en gros, si.
En gros. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas une toute petite chance.
Qui serait déraisonnable de courir.
Mais qui existe.
Pas pour moi.
Pas pour toi, mais en soi, elle existe. Bref. C'est pas une fausse promesse, et encore moins un vrai mensonge.
Très beau dialogue, très malin, tout comme le scénario. La promesse, c'est l'unité monétaire en politique. Je ne sais plus qui dit ça, si c'est vous ou votre scénariste. Une monnaie qui sera échangée tout au long du film. Promettre.
Ouais, ouais. Non, je suis souvent un peu étonné, évidemment, quand on fait un film qui s'appelle Les Promesses, et avant de le présenter, souvent je disais, bah voilà, ça sera un film sur la politique, ça s'appelle Les Promesses, et très souvent, en fait, et ça dit peut-être probablement quelque chose de la manière dont on peut être désabusé aujourd'hui par rapport à la politique, on va tout de suite penser à quelque chose d'ironique et à cette phrase de Pasqua ou de Chirac, les promesses n'engagent que ceux, voilà. Et dans ce film, il y a quand même des promesses qu'on va pas réussir à tenir, il y a des promesses qu'on va peut-être essayer de tenir, enfin voilà, on tient à ça, mais effectivement, c'est la base de la politique. Voilà, c'est on pense que ça pourrait être démagogique, mais en fait, sans promesse, il n'y a pas d'élection. Et au fond, toutes les relations, même intra-politiques et entre toutes les strates, de l'échiquier qu'on traverse de cette cité jusqu'au palais de la République à Paris, voilà, ce qu'on échange, c'est des promesses, voilà, d'argent, d'alliance, de poste, de confiance.
On est obligé d'en faire pour arriver à ce qu'on veut, à là où on veut arriver, c'est-à-dire imposer le financement de ce projet.
Ah oui, bien sûr. Et ce qui est assez intéressant, je crois, en tout cas ce qui nous intéressait, c'était de faire résonner une décision politique, un enjeu local pour 3000 personnes dans cette ville, à différentes strates de l'État, avec à chaque fois, et c'est ce qui crée un peu ce combat permanent entre les personnages à différents postes de l'État, parce que chacun a une vision différente, des objectifs différents, une distance plus ou moins grande par rapport aux problèmes, et comme le disait le personnage de Laurent Poitrenaud dans le premier extrait que vous avez diffusé, il y a des arbitrages à faire. Voilà.
Vous avez fait beaucoup de promesses pour convaincre vos producteurs de financer le film?
Non, je sais pas. Ouais, non, si, parfois on a fait la promesse qu'en racontant un peu cette mécanique, ces coulisses et le concret de la politique, il y avait du romanesque dedans, il y avait un thriller et c'était pas non plus quelque chose que j'avais l'impression qu'on inventait ou on créait, je dirais, de la pyrotechnie sur le réel. Ouais. En fait, le réel d'un maire, de son équipe, c'est un peu la gestion de crise en permanence, des comptes à rebours, de la tension, et puis aussi à l'intérieur d'eux-mêmes, dans l'intime, des paradoxes, des contradictions qui les traversent. Donc il y avait un peu, je dirais, toutes les veines du suspense ou du thriller, même si, je crois que le film devient ça à mesure qu'il avance.
Complètement, 30 dernières minutes. Absolument captivante, à l'américaine, on ne révélera
l'américaine, si.
Non, mais on ne révélera absolument rien.
Merci.
Non, vraiment, et dans l'ambiance et dans l'esprit, c'est très Frank Capra d'ailleurs. Parce que vous y croyez finalement, en fait.
Moi vraiment j'aime beaucoup Frank Capra. Je pense qu'il y a des moments, les personnages ont des élans de. Enfin, il y a la beauté de l'engagement politique. On essaie d'être ni cynique ni angélique. Mmh. Après, peut-être par rapport à Frank Capra, les personnages ne sont pas innocents. Mmh. Ce ne sont pas des nouveaux venus, c'est des nouveaux-nés de la politique.
Non.
Et chez Frank Capra, il y a d'un côté les cyniques, de l'autre côté les idéalistes. Et eux, je crois que les personnages, ils ont les deux en eux.
C'est vrai.
Voilà. Et c'est ce petit combat intérieur et combat extérieur. Voilà qui les anime. Il y a des belles envolées, et puis il y a aussi dans le personnage d'Isabelle, dans le personnage de Reda, des fragilités, des doutes, un ego, un amour propre trop grand, l'ambition bien sûr.
Moi j'aimerais citer autour d'eux, bon, ce sont deux immenses acteurs, mais c'est une sacrée distribution. Il y a Nedra Ayadi, Jean-Paul Borde, Soufiane Guerab, Laurent Poitrenaud, Hervé Pierre, Walid Afkir. Enfin, ils sont tous. Est-ce qu'il y a des non-comédiens dans le lot?
Non, pas
dans l'entourage.
Dans l'entourage, non. Et les non-comédiens sont les habitants de la cité sont. Il y a beaucoup de non-comédiens et d'habitants de Clichy et des alentours. Mais non, on a construit autour de ces deux acteurs, de ce duo d'Isabelle et de Reda, voilà un casting aussi, je crois, assez contrasté, de présence forte.
super parce que crédible.
Aussi, ouais. Tout est un petit peu combat dans ce film-là, et voilà, il y a un contraste parce qu'on va des hauts palais jusqu'à cette cité, ou plutôt dans le sens inverse, et à chaque étape, à chaque étage, bah voilà, il y a des gens qui incarnent d'autres classes, d'autres places dans le voilà, et donc il y a des acteurs de théâtre, il y a des acteurs qui ont un background peut-être de séries télé. Voilà, il y avait cette variété, cette texture qu'on a cherchée.
Thomas Krutoff, Les Promesses, ça sort mercredi prochain.
Allez voir.
J'ai l'impression que je peux vraiment être Premier ministre. Si je suis bien entouré. Si je choisis des bonnes personnes. Si j'ai la bonté en moi, que j'ai du bon sens. Que je sais trier les bonnes et les mauvaises idées. Pas tant en trouver, juste écouter. Et savoir repérer ce qui est bien et ce qui est pas bien. Si je me rase tous les matins. Que je mets un costume et une cravate. J'ai 51 ans. Qu'est-ce qui empêche ? Rien.
Vincent Lindon, dans Pater d'Alain Cavalier, un comédien se rêve Premier ministre, et lui, vous, Laurent Papeau, comédien aussi dans la vraie vie, allez vous porter candidat à la mairie de Revin, petite ville des Ardennes, et d'entraîner toute une ville dans une fiction politique. Le film s'appelle Municipal de Thomas Polo. Je propose d'écouter tout de suite un extrait de ce film. Vous êtes arrivé dans la ville. C'est votre première interview à la presse écrite où vous racontez ce que vous allez faire.
Ouais. Ce qui est sûr, c'est que si je suis élu, moi je disparais. Parce que mon contrat se termine à la fin de l'élection. Donc l'idée, c'est de mettre au pouvoir quelqu'un qui, de toute façon, devra s'en aller, s'il est élu. Et à partir de ce vide, comment s'organiser ? Il y a un climat assez exceptionnel au moment des élections. Sur comment la population s'empare de la parole publique. Remettent en jeu, espèrent. L'idée serait de faire perdurer le plus longtemps possible cette effervescence et pas de fermer les choses avec un programme.
On a l'impression que parmi la population de Revin, il existe encore un doute sur votre candidature. Est-ce que du coup, vous ressentez ça ou vous allez vraiment acter votre candidature ?
Moi, j'acte vraiment ma candidature et l'idée, c'est que les Revinois et les Revinois se servent de mon local qui sera à la fois un lieu ouvert et occupé en permanence pour construire cette organisation différente.
Laurent Papeau, c'est vous donc dans Municipal, projeté un comédien dans une élection réelle, se retirer en cas de victoire et donc provoquer la crise du système représentatif et finalement proposer l'autogestion. Le scénario était écrit, mais tout est arrivé de façon assez sauvage et vous avez dû improviser. C'était quoi là-bas ? Vous arrivez dans cette petite ville, les Ardennes. Qu'est-ce que vous ressentez ?
Déjà, bonjour à la famille.
Oui.
Et ensuite, en fait, la force de film, je crois, c'est qu'il comporte un risque. Et ça, c'est le principe aussi d'une œuvre d'art, quoi. Ça comporte un risque.
Oui.
Un risque que moi, j'ai pris de plein fouet quand on m'a proposé le projet. Parce que tout d'un coup, on va jouer, mais on va pas jouer. Donc, c'est ce risque-là qui infuse tout au long du film, je crois.
Vous avez hésité
Bien sûr. Bon, moi, je leur ai dit, c'est pas vous qui allez me choisir, c'est moi qui vais vous choisir, parce qu'on a passé un casting, etc. Et je leur ai dit, mais ce que vous proposez, là, je comprends très bien le projet.
Oui.
C'est quelque chose, ça s'appelle un engagement, en fait. Et ça s'appelle un engagement. Et le fil, en fait, ça va être un fil. C'est-à-dire qu'on va être entre deux gouffres. C'est-à-dire le gouffre de prendre les gens pour des cons, enfin je veux dire voilà, d'avoir cette espèce de vision de surplomb des gens de Paris qui vont en province et puis etc. comme une caméra cachée ou un striptease quoi. Et puis l'autre problème, c'était de moi m'enfermer dans la construction d'un personnage politique et puis d'être un peu égocentré et puis de me regarder un petit peu de trop près, etc. Donc moi tout le risque, c'était on met la main sur quelque chose de brûlant, quoi. C'est-à-dire on dit ce pouvoir là qui est une chose sérieuse, tout d'un coup tiens. Hop, on prend le...
C'est-à-dire que vous êtes clair dès le début, en fait. Effectivement, il n'y a pas de caméra cachée, vous leur dites tout de suite, si je suis élu, je m'en vais. Et là...
Ouais. Et puis surtout, je leur dis, je suis acteur. Donc, donc en fait, je propose aussi, à travers le dispositif du film, je propose un jeu.
Oui.
Et donc moi, je devais, en tant qu'acteur, faire en sorte que ce jeu ne soit vraiment pas compliqué, ne soit pas quelque chose d'insurmontable pour eux. Donc il fallait que ça soit très direct, très simple. Puis ça vient évidemment dramaturgiquement renforcer l'idée du personnage politique, affable, social.
Vous faites des rencontres assez formidables, notamment cet extrait qu'on a choisi avec cette dame retraitée, magnifique. Oui.
Voyez, à mon âge,
Et moi, j'étais prof d'histoire géo. Eh bien, j'essaye, et c'est ça qui est capital, c'est de comprendre son époque. Savez-vous que là, c'est le malgré tout.
Ah, c'est cette montagne-là ?
Oui. C'est une vieille devise médiévale qui veut dire « malgré les coups du sort hein, »,« malgré la poisse, je me bats ». Donc, ici, j'ai bien peur qu'ils aient baissé les bras. Pour moi, vous êtes à Revin, où c'est le pire, le traumatisme a été le pire, qu'on est à la veille d'une renaissance. Et les gens ne peuvent pas y croire. Parce que vous, votre challenge, c'est quoi ? C'est donc mener une campagne en parallèle. Je suis sûre qu'après ces élections, vous aurez peut-être été un catalyseur pour beaucoup de choses. Moi, je suis persuadée que Revin s'en sortira.
Et qu'est-ce que vous pensez d'un slogan de campagne ? Parce que pour l'instant, on est sur Revin 2020, ça fait 20-20-20, mais en fait, on voulait marquer Laurent Papeau malgré tout.
Ah, excellent.
Laurent Papeau, ouais. Et cette magnifique rencontre, Revin, c'est vrai que le passé industriel de la ville qui était sidérurgique et les délocalisations, c'est un territoire sacrifié, c'est une ville meurtrie.
Ouais, complètement, c'est une ville, qui comme beaucoup de villes en France, est un peu oublié. Je voudrais juste revenir sur l'extrait, parce qu'en fait, on est au cœur du dispositif là.
Oui.
C'est-à-dire, on a notre local de campagne, et donc, on est là, oui. Tout le monde sait, ça a été annoncé dans l'Ardennais, etc., tout le monde sait qu'on fait un film là-dessus. Et puis, en fait, cette dame arrive, enfin, c'est le principe du film, en fait, ça n'a été que ça, les gens sont venus à nous.
Oui.
Elle a commencé à nous parler, on a dit, top, attends, on met la caméra, tac, 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 le micro, etc., voilà. Donc, allez-y, parlez-nous. Mais on ne savait pas ce qu'elle allait dire. Et donc, et la séquence se déroule comme ça. En fait, les gens se sont emparés de la fiction. On leur a proposé un truc, on leur dit, bon, bah voilà, on va parler politique, forcément, parce que moi, je suis acteur et que je connais rien ici, alors comment ça se passe chez vous? Donc, les gens commencent à parler de leur ville, de leurs problématiques, etc. Et puis, au bout d'un moment, les gens viennent à nous en nous disant il paraît que vous tournez un film, bah moi j'ai quelque chose à dire. Et du coup en effet, donc il y a le fond dont je parle actuellement, c'est-à-dire c'est le dispositif qui permet que les gens viennent dans une parole qui leur est personnelle et qui est toujours très pertinente, oui. Sinon ils oseraient pas franchir la porte. Et d'autre part sur ce qu'elle raconte de tout un passé industriel, mais ça c'est presque, enfin je veux dire, on connaît tous ça en France aujourd'hui, les délocalisations, ouais. On forme les gens, c'était Electrolux, Porsche, Arthur Martin, faut pas citer de marque, mais bon après tout ils sont en Pologne maintenant, donc voilà. Les gens forment les futurs ouvriers polonais, puis ils partent, et puis en fait il y a des faux plans de relance, des sociétés fantômes qui s'emparent du truc, et puis à la fin on met tout le monde dehors,
On se rend compte que c'est très difficile de constituer une liste, même une liste fictionnelle comme ça, mais qui pourrait arriver à une autogestion. Très compliqué, notamment aussi pour les femmes. En fait, vous faites rêver les gens, mais les gens veulent pas rêver avec vous.
Ben, on en parlait tout à l'heure avec l'espoir, en fait, aussi. C'est-à-dire que, moi, je dis à un moment, il y a une scène, justement, à la radio, où je dis, mais je vais pas leur promettre quelque chose. Je vais pas espérer à leur place. Parce que, en fait, porter de l'espoir, ça serait comme la première promesse non tenue, quoi. Et en fait, il y a Mijo, en fait, cette femme aussi, que je salue, d'ailleurs, elle doit écouter. salut Mijo. Elle me dit, je peux pas m'engager avec vous tout à fait parce que c'est beau, c'est bien, mais en fait le maire à la fin il sera responsable. Et c'était aussi une peur. Enfin, je veux dire, il y a aussi cette peur là, c'est-à-dire la peur que moi j'ai affrontée en tant qu'acteur que j'ai transmise un petit peu à tout le monde. Cette problématique là, je l'ai donnée un peu à tout le monde. Il y a des gens qui s'en sont emparés, il y a des gens qui n'ont pas pu parce que aujourd'hui c'est difficile de se dire que on peut être responsable de ce qui se passe pour nous dans nos vies, quoi.
Au cœur de municipal, effectivement, ce débat entre le réel et la fiction dans cette scène.
Est-ce que cette liste, on l'a fait véritablement ? Est-ce qu'on la présente véritablement ? On est prêt à assumer tout ce qui peut arriver, etc. Mais par contre, on ne veut pas absolument pas prendre cette décision nous-mêmes. Et puis, en fonction de cette réponse-là, qu'est-ce qu'on engage derrière, quoi.
Je pense qu'il vaut mieux qu'on soit, nous, dans le fictif, ce qui ne veut pas dire que ça ne fera pas peut-être bouger des choses. Parce que si on est dans le réel, la confusion dans la tête de beaucoup de personnes, elle risque d'être grande.
La fiction, quelquefois, fait plus réfléchir, parce qu'il y a une distanciation qu'il n'y a pas quand on a le nez dans le... C'est pour ça que moi je serais plus pour la fiction, mais bon.
Je me dis que c'est si on part dans le fictif qu'on va créer de la confusion dans la tête des gens. Sinon, on se dit qu'on peut y aller réellement et qu'on assure aux gens qu'on n'est pas là juste pour mettre la zizanie ou quoi que ce soit et qu'on a vraiment envie de faire bouger les choses et d'y aller concrètement. C'est là où les gens vont nous suivre. Enfin, on a plus de chances, je pense, de faire suivre les gens comme ça.
Ça peut virer du fictif. Éventuellement réel, parce que si les gens se prêtent au jeu, les parties en place, ils vont dire merde. Qu'est-ce qui se passe?
Si les gens commencent à voter pour moi, c'est pour que je laisse une mairie ouverte, avec un siège vide, et l'obligation, à partir de là, de repenser, par la pratique, de repenser le fonctionnement de la prise de décision. Quoi.
Alors, ça, Thomas Krutoff, c'est un sacré dialogue qui n'est pas écrit, qui est complètement improvisé par Laurent Papeau et les habitants. C'est incroyable.
Ouais, non, c'est incroyable de les faire parler de la fiction, de réfléchir à la meilleure approche pour.
C'est passionnant ce qui s'échange.
Ouais, non, c'est du réel et en même temps c'est complètement expérimental cette rencontre et cette réflexion un peu sur la démocratie ou les élections, enfin le débat politique en général, quoi.
Laurent Papeau, vous êtes, j'imagine, vous êtes devenu de plus en plus impliqué, en fait. Est-ce que votre vision de la politique a été modifiée? Est-ce que oui.
Oui, oui, totalement. Oui, bien sûr. Moi, je suis né en banlieue parisienne et dans des grandes villes dont parlent en fait les villes de banlieue dont parlent les promesses d'ailleurs, où le maire, enfin chez moi en tout cas, c'était reste quelque chose d'un peu lointain. C'est où dans les grandes villes, on est déjà dans l'appareil politique et c'est précisément pour ça qu'on a voulu aller dans une petite ville. C'est parce que le maire a un rapport direct, etc. Oui, ça a changé énormément de choses à beaucoup d'égards dans ma vie personnelle. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais bien sûr sur la possibilité qu'ont les gens à s'organiser et à agir plutôt que de macérer du ressentiment. C'est la période actuelle, quoi. Chacun avec son petit ressentiment et puis tout d'un coup ça ferme. Faut construire des ponts et pas des murs. C'est-à-dire les murs c'est beaucoup plus facile à construire qu'un pont, quoi. Faut y aller pour
on va pas raconter la suite parce que c'est là aussi dans sa façon un petit thriller, hein, ce qui va vous arriver.
Ouais, tout à fait.
Etc. Allez voir ces deux films absolument passionnants. Les promesses de Thomas Krutoff et Municipal, réalisé par Thomas Polo.
Oui.
Et on se retrouve après Benjamin Biolay pour parler des sorties, Laurent.
Et volontiers.
J'ai parcouru le monde, j'ai traversé la France de fond en comble, chaque station essence. J'ai traversé la vie comme une ambulance, jamais trop en retard, jamais trop en avance. J'ai parcouru le globe sans la moindre carte, dans la cour de l'école j'ai lâché quelques tartes. À présent c'est l'automne et plus rien ne m'étonne, elle ne m'a pas mené seulement jusqu'à Rome. Passer les frontières, style derviche, tourneur, contrebandier naguère, demande à ta sœur. J'ai passé le checkpoint, tel un épouvantail, en frappant à ta porte, je montais sur les détails. J'ai traversé l'Europe jusqu'à plus jamais soif, enfant de mon époque, sans passion et sans taf. À présent c'est l'hiver, et plus rien ne m'étonne, ni pleurer des rivières, ni les débris de carbone. Je roule
la France, j'ai parcouru le monde. J'ai connu bien des transes, j'ai fleuri quelques tombes. Je voulais qu'on m'arrête et non pas qu'on me sonde. Je voulais te paraître le meilleur du monde. Je regardais la mer comme un vieillard mourant, mais je levais mon verre à tous les éléments. Le nez planté au ciel et même au firmament, mais la route m'appelle, je suis son vieil amant. Je roule dans la nuit noire, je tourne jusqu'à trop tard. Je roule jusqu'à l'aube, jusqu'au bout de la nuit fauve, de la nuit fauve.
Avant de parler des sorties, un petit message pour les habitants de Revin. Demain, c'est Jean Villard, à la projection de Municipal. Voilà, c'est fait. Allez-y nombreux. Nightmare Alley, le premier film dont on va parler, Laurent, c'est le nouveau film du Mexicain Guillermo del Toro, avec le charismatique Stanton Carlyle qui débarque dans une foire itinérante et parvient à s'attirer les bonnes grâces d'une voyante et de son mari, une ancienne gloire du mentalisme. Il s'initie auprès d'eux et il voit un moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d'utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l'élite de la bonne société. Un regard très noir sur le genre humain. Dans une société de croyances, croire au film, malgré une réalisation hyper soignée, on est loin, Laurent, de la poésie et de la folie de ses films précédents.
Oui, je partage cet avis. 2h30, hein, quand même, 2h30 de surenchère visuelle, oui. En se demandant, mais qu'est-ce qu'il veut au fond nous dire avec ce film qui passe d'un hommage, à la limite plutôt réussi, à l'univers de Frix, hein, notamment le cirque, les monstres, ouais, etc., à un film d'escroquerie, de haut vol, plutôt banal finalement, parce qu'on a vu souvent cette histoire-là. Et ce qui est très curieux, c'est que ce film qui est sur, vous le disiez, l'illusion, la magie, les fantômes, enfin voilà, qui charrie un certain nombre de sujets ô combien cinématographique notamment, ben en tous les cas, moi, ça ne m'a fait aucune émotion, aucun mystère. Non. Donc c'est le mystère du film, c'est-à-dire c'est produire aussi peu de choses alors qu'on en parle, alors qu'on voudrait les montrer. Voilà, c'est le paradoxe.
L'amour, c'est mieux que la vie. Je comprends pas cette phrase, s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'amour. Bon bref, c'est le nouveau film de Claude Lelouch avec Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon. Gérard, Harry et Philippe ont fait connaissance il y a 20 ans à la sortie de prison. Aujourd'hui, ils sont inséparables, mais Gérard apprend qu'il souffre d'un mal incurable. Le sachant condamné, Harry et Philippe veulent lui offrir sa dernière histoire d'amour, car Gérard a toujours répété que l'amour, c'était mieux que la vie.
Ben je comprends pas pourquoi vous comprenez pas. Écoutez, l'amour c'est mieux que la vie. La pluie ça mouille. L'été ça vient. Voler c'est pas bien. Enfin, on sait bien la philosophie de Claude Lelouch, quoi. C'est ça. C'est cette espèce d'amalgame de phrases que tout le monde répète sans finir par les comprendre. Mais alors c'est son 50e film. Hein, c'est marqué sur les affiches. On n'a pas besoin de calculer. Je trouve ça très très étonnant. C'est la première fois que je vois ça. Il y a marqué 50e film et c'est le premier d'une trilogie. Donc c'est la petite philo de Lelouch qui continue de film en film. Là, alors, il recycle pas mal des extraits de ses films précédents, ça lui permet de tenir la distance, et puis comme il est propriétaire des films, il paye pas de droits, donc ça c'est plutôt bien. Tout est ringard, tout est incroyablement vieux, y compris le jazz qu'on y entend, c'est ça qui est extraordinaire, et avec une capacité à enchaîner des clichés sentimentaux, des clichés de cinéma, qui est tout à fait sidérante, au fond, c'est une vraie prouesse. Le problème, je vous le disais, c'est le premier volet d'une trilogie. Ça veut dire qu'il y aura deux films.
En revanche, Le Tendre et Saignant de Christopher Thompson, qui est une délicieuse comédie romantique, qui déroule un programme attendu, certes, mais qui n'a rien à envier aux comédies américaines, avec la présence lumineuse de Géraldine Bellas. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait pas plus de cinéma?
Ça, c'est une vraie question.
Elle est merveilleuse.
Oui, elle est merveilleuse. Le film est écrit par Fabrice Roger-Lacan, il faut le dire.
Oui.
Ça donne certainement son allant, son rythme, sa vivacité.
Les Leçons persanes de Vadim Perelman. 1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté dans un camp en Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il échappe à la mort en jurant au soldat qu'il n'est pas juif, mais persan, et ce mensonge le sauve momentanément.
Oui, alors.
Ce qui va donner des leçons de
farci. Absolument, de farci. Bon, alors, fiction et Shoah, c'est
au capitaine
SS. Il y aurait de quoi passer une émission entière. On va pas la faire maintenant, on n'a pas le temps, hélas. Le problème, c'est que le film, ou du moins son réalisateur, prétend qu'il s'agit de faits réels, et que pour l'instant, il n'en a apporté aucune preuve véritable. Donc, quand on fait des choses avec une période aussi particulière de l'histoire, et qu'on prétend que c'est l'histoire, ça, moi, en tout cas, personnellement, ça me pose beaucoup de problèmes. Et quand on met tout ça au service,
grave, avec une mise en scène d'un académisme pesant, une musique absolument lacrymale, omniprésente et lourde, et qu'on finit par faire, par exemple, un très beau plan aérien sur un transport de cadavres. Là, c'est même plus du malaise, on a envie de quitter la salle.
Lynx, un documentaire de Laurent Gesselin, je sais pas si on prononce Gesselin ou Gélin. Pendant 9 ans, d'une patience infinie et un an de tournage, il a suivi au cœur du massif jurassien la vie d'un couple de lynx boréal et de leurs enfants. Réintroduit il y a une quarantaine d'années, ce prédateur a rétabli l'équilibre fragile. Les Gélin ont fait presque une fiction avec témoins, chamois, aigles, renards, hermines, dans des paysages absolument sublimes. Heureusement pas écrasés par une musique justement très pesante. Après, on peut discuter sur le commentaire, parfois redondant, du réalisateur, alors que les images le plus souvent parlent d'elles-mêmes. Ça s'appelle Lynx. La place d'une autre, Laurent de Aurélia Georges. Nelly a échappé à une existence misérable en devenant infirmière auxiliaire sur le front en 1914. Un jour, elle prend l'identité de Rose, une jeune femme qu'elle a vue mourir sous ses yeux et promise à un meilleur avenir. Nelly se présente à sa place chez une riche veuve, Éléonore, dont elle devient la lectrice. Le mensonge fonctionne au-delà de ses espérances. C'est un film avec Sabine Azéma et Lina Koudry.
Oui, c'est une très très belle surprise, ce nouveau film d'Aurélia Georges, qui est une cinéaste rare. Oui, il faut bien aimer pour ne pas aimer, tout ça, enfin, c'est la critique. Très très belle surprise, cette histoire d'usurpation d'identité, on connaît ça avec Martin Guerre, par exemple, mais beaucoup d'autres films aussi s'y intéressent, et c'est ô combien cinématographique. Et là, je trouve que l'intelligence profonde d'Aurélia Georges, c'est d'avoir fait une facture très classique en l'assumant absolument, parce que évidemment qu'il faut une extrême clarté, évidemment qu'il faut être limpide pour filmer la dissimulation, pour filmer le mensonge. C'est évident quand on y pense. Donc c'est le portrait de quelqu'un qui n'est pas à sa place, qui est merveilleusement incarné par Lina Koudry, pardonnez-moi, face à celle qui incarne peut-être la vérité, le réel, et là aussi une incroyable Sabine Azéma. Il y a très longtemps qu'on n'avait pas vu aussi merveilleuse dans un rôle. Bref, c'est un film absolument complexe, sur le fil, très très subtil. C'est une grande réussite.
Memory Box de Khalil Jorej et Johanna Hadji Thomas, Montréal, le jour de Noël. Maya et sa fille Alex reçoivent un mystérieux colis en provenance de Beyrouth.
Oui, alors c'est un couple, il faut le dire, de réalisateurs, mais qui sont aussi à la base des plasticiens. Et ça se voit, et ça s'entend, et ça se beaucoup dans leur cinéma. Et on peut pas s'en plaindre, sauf que cette fois, ils convoquent tout ce qu'ils convoquent habituellement, des archives, de la correspondance, des photos, des textes, des dessins, des cassettes audio, etc. Et qu'ils ajoutent, c'est pas la première fois, mais qu'ils ajoutent ici une partie fictionnelle qui est absolument maladroite, et notamment, et c'est dommage, qui est absolument mal jouée. Donc ça entraîne une sorte de lourdeur, avec des allers-retours entre le passé et le présent auquel on finit par ne plus rien comprendre. C'est franchement dommage par rapport à ce qu'ont fait précédemment ces deux auteurs.
Un rappel sur The Chef de Philippe Barantini. Vous savez, dans un restaurant gastronomique de Londres, côté cuisine, à quelques minutes du coup de feu, un service du soir filmé en continu, un seul plan séquence d'une heure et 34 minutes pour capter l'énergie. Et cette mécanique qui implique toute une brigade où le moindre couac peut ébranler l'édifice, il y en aura beaucoup au cours de cette soirée. C'est le côté obscur de la restauration, enfin dépeint, grâce à cette caméra qui s'infiltre partout, dénonce aussi la violence d'un système. Le tout mené par de grands acteurs, Stephen Graham en tête, c'est le chef. Résultat, c'est captivant, de la première à la dernière image. C'est un tour de force. On va terminer par un doc sur Michael Cimino, Laurent, signé Jean-Baptiste Torret.
Oui, en deux mots, pour ne pas être ni trop long ni trop méchant, mais si vous avez envie de découvrir le cinéma de Cimino, c'est pas ce documentaire-là qu'il faudra aller voir, parce que c'est franchement une espèce de road movie mémoriel qui parle presque plus de son auteur et qui nous donne sur le cinéma de Cimino proprement dit bien peu de pistes.
Un grand festival qu'on aime beaucoup, c'est le festival d'Angers.
Oui, la 34e édition de ce beau festival qui s'appelle Premier Plan, tout simplement parce qu'il s'intéresse aux premières œuvres. Oui. Et Dieu sait si, évidemment, c'est très très important, les premiers films. C'est du 24 au 30 janvier à Angers, on l'a dit. C'est monsieur Melville Poupon qui sera le président du jury de la fiction. Il y aura notamment un hommage à Christian Petzold,
le grand metteur en scène
allemand. Il y a des ateliers et aussi des choses formidables. Ce sont des lectures de scénarios faits par des comédiens devant un public incroyable qui écoute les scénarios. Je trouve que l'exercice est merveilleux dans la bonne réhabilitation de cet exercice.
l'exercice qui est le scénario.
Et c'est un festival où j'ai jamais vu ça, les gens restent jusqu'au bout, du générique.
Ce sont des vrais cinéphiles, les Angevins.
On va passer au cadeau, Laurent.
Oui, alors, pour Thomas Kruithof, puisqu'il s'intéresse à la politique, on lui dédie ce moment important de l'histoire de l'humanité, la chute de l'Empire romain. Vous voyez, on est un peu loin du 93, mais enfin, quand même, on reste dans la politique. Ouais. Par Anthony Mann, merveilleux cinéaste américain, Alec Guinness, James Mason et Sophia Loren, s'il vous plaît, quel casting pour effectivement ce film, espèce de péplum politique incroyable,
qui fait
l'objet d'un merveilleux coffret chez Rimini, très très bel éditeur. Et il y a notamment une analyse en bonus, une analyse du film par Jean Douchet, que je vous recommande, que je recommande à nos auditeurs bien entendu, et un livre entier, un petit livre entier est donné avec ce très beau coffret. Et puis pour vous...
un auteur très punk.
Voilà, exactement. Et Monsieur Avshalom Polak, qui est l'acteur, je ne sais pas si vous l'avez vu, du Genou d'Aed. Oh. Voilà, Genou d'Aed, le dernier film en date, bien sûr, de Nadav Lapid, qui sort chez Pyramide. Il y a aussi un court-métrage, d'ailleurs, de Nadav Lapid en plus, une analyse du film. Et c'est vrai que cet acteur, omniprésent pendant toute la durée du film, il est un peu comme vous, il est souvent en colère. Voilà, mais la colère est bonne conseillère. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à tous les deux.
Il y a marqué l'un des films les plus puissants de cette année avec Municipal.
Bah non, c'est vrai. Génial. Merci à Laurent Thomas et Claire Destacan, nos deux chères réalisatrices, à Christophe Magère pour la préparation et à Thierry Dupin pour la programmation musicale. Au revoir.
Au revoir.